Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
Et c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, ça, et ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphie, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Terrain Vague. Bonjour à Tom en régie. Et bonjour à notre invité du jour, on accueille Nathalie Guillon de Méritance, avocate à la cour. On peut dire avocate à la cour ?
Bonjour d'abord.
Bonjour d'abord.
Merci de me recevoir.
Avec plaisir.
Oui, tout à fait, c'est la mention que nous avons sur notre papier en tête ou carte de visite, avocat à la cour.
Je trouve ça trop classe à chaque fois, avocat à la cour.
On fait ce qu'on peut.
Alors, Nathalie, aujourd'hui, on s'est dit qu'en tant qu'émission culturelle et qu'on parle beaucoup d'art et qu'on invite des artistes, etc., on s'est dit que c'était chouette d'inviter une personne qui va pouvoir nous parler un peu de droit d'auteur, de droit à l'image pour se dépatouiller un peu de tous ces termes juridiques qui sont parfois un peu flous. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter... ponctuer un peu d'anecdotes ou de cas pratiques, tu vas nous raconter, tu vas nous expliquer un petit peu en quoi tout ça consiste. Et je crois qu'on démarre, d'abord on va parler de toi, qui tu es, quel est ton parcours un petit peu, enfin brièvement, ce que tu veux bien nous dire de toi.
Merci. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est surtout de parler des artistes et du droit d'auteur, mais je me présente donc assez rapidement.
Oui.
Donc, je suis avocat à la cour,
oui.
Près de la cour d'appel de Montpellier. Avocat en premier lieu, bien sûr,
oui.
Et en seconde intention, avec des activités qui sont maintenant ouvertes aux avocats, qui deviennent des interlocuteurs naturels qui sont de leurs clients,
okay.
Qui deviennent de nouveaux interlocuteurs pour une nouvelle catégorie de clientèle, mais
d'accord.
Qui existe, et donc, par exemple, en l'occurrence, les artistes.
Oui.
Donc, les avocats, depuis quelques années, développent ces nouvelles compétences qui sont organisées et réglementées par la profession.
Okay.
Et une de ces nouvelles compétences, que j'exerce en étant inscrite à l'ordre des avocats,
okay.
Est celle d'avocat mandataire d'art ou d'artiste.
D'accord.
Voilà.
Ah, en fait, c'est ça, ta seconde casquette. Je me demandais justement quelle forme et quel statut ça avait, si c'était vraiment une activité vraiment autre ou si c'était avec ta casquette d'avocat, en fait.
Non, je suis tout à fait sous la même casquette.
D'accord.
Sauf que c'est un autre domaine d'activité.
D'accord.
Mais qui reste soumis à ma déontologie.
Ok.
Que je dois respecter,
bien sûr.
Qui reste soumis aux règles de ma profession, mais qui s'inscrit dans un nouvel espace.
Voilà. D'accord.
Donc ça, c'est un avantage. Et tout comme, par exemple, la transaction immobilière, que je pratique également en tant qu'avocat mandataire,
okay.
Et qui s'inscrit surtout pour nos clients. Donc là, on parle du droit d'auteur, des artistes,
ouais.
Et d'autres sujets. Et qui s'inscrit dans une sécurité qu'on va leur proposer.
D'accord.
Et les garanties de toutes nos compétences professionnelles, notre responsabilité professionnelle,
okay.
Qui est différente de celle des autres acteurs de terrain, sur ce terrain-là, qui vont être par exemple les agents d'artistes,
okay.
Qui aussi ont leurs compétences. Nous avons des compétences différentes.
Ok, oui, on a eu un petit son bizarre, mais c'est pas grave. Ça fera, je pense, l'objet d'un prochain épisode parce que, à mon avis, tu vas revenir plusieurs fois chez Divergence.
Avec plaisir. Avec plaisir.
Et tu nous parleras justement de cette activité. Alors j'ai envie de dire à côté, mais pas tant, puisque c'est
non.
Vraiment dans le cadre de tes fonctions d'avocat. Et tu reviendras pour nous parler de cette activité-là. En attendant, on va se focaliser un petit peu sur. On va rentrer déjà dans le vif du sujet. Le droit d'auteur. Explique-nous. Moi, je ne sais pas trop comment le prendre. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est, en fait ?
Voilà. Alors, vaste sujet, bien sûr, mais c'est quand même le sujet principal qui va nous intéresser pour les artistes.
Ouais.
Les artistes qui doivent être évidemment toujours mis en valeur dans le cadre de leur profession. Donc ça, c'est fait par leurs galeristes, c'est fait par les spécialistes de l'art.
Mm-hmm.
Ça peut être aussi fait maintenant par les avocats mandataires d'artistes, parce que pour compléter ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que nous exerçons cette profession sur cette matière-là, mais pas de façon principale, mais on va dire que de façon accessoire, nous pouvons aussi travailler avec tous les acteurs du marché de l'art et diffuser aussi, donc ça c'est une originalité, une nouveauté pour notre profession, c'est que nous allons pouvoir favoriser la diffusion des œuvres, des artistes, quelles qu'elles soient, hein, puisque on va trouver la musique, la création, l'art plastique, la sculpture, voilà. Mais surtout, on va pouvoir aussi assister l'artiste dans la diffusion auprès de ses clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Et c'est le terrain que j'ai choisi, les entreprises, pour permettre aux entreprises, par des biais fiscaux, montage de sociétés, de pouvoir investir dans l'art, ce qui existe déjà, mais qui n'est quand même pas finalement si connu par une catégorie d'entreprise qui sera plutôt de la moyenne ou de la petite entreprise. Donc ça, c'est mon ambition d'amener aussi l'art dans l'entreprise pour que ça bénéficie également, par exemple, aux salariés, pourquoi pas, pour que l'art véhicule une image pour l'entreprise,
un petit peu
une image accessible, mais pour que ça soit une image marquante, pourquoi pas, pour l'entreprise qui a choisi de se positionner sur ce domaine-là. Ça peut être, par exemple, de l'art engagé. Ça, c'est un sujet qui est très important actuellement, puisque les entreprises, maintenant, sont sorties du schéma classique de la rentabilité. Donc, on travaille sur ces terrains qui sont très, très intéressants et qui peuvent accompagner l'artiste et les futurs clients. Voilà, donc ça, c'était pour compléter ce que j'ai dit sur l'environnement de mon activité. Alors, évidemment, je disais tout à l'heure, je parlais de la sécurité de la transaction, de la sécurité auprès de l'artiste qui va être mon client, hein, qui va vraiment être mon interlocuteur. Eh bien, cette sécurité dans l'art, elle se trouve à travers le droit d'auteur. Alors,
rentrant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le droit d'auteur ? Parce que vaste sujet quand même.
C'est un très très vaste sujet. En fait, le droit d'auteur, c'est l'ensemble des droits qui va protéger. Donc la création de l'artiste, qui est en fait ce qu'on appelle la création originale, une création originale, personnelle, d'une œuvre. Et cette œuvre peut être de différentes natures. C'est une œuvre qui peut être musicale, qui peut être littéraire, qui peut être plastique, qui peut s'exercer dans la vidéo, puisque maintenant, on a vu que l'art va très loin, y compris avec l'intelligence artificielle, on en parlera tout à l'heure, et donc des créations dans des espaces virtuels qui existent aussi. Donc, on s'aperçoit que cette protection, c'est ce qui va rendre plus difficile la protection, va s'exercer déjà dans différents domaines. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que ça s'applique sur une création originale et personnelle du créateur. Et je dis créateur de façon très précise, parce que si on dit artiste, ça veut tout et rien dire. Donc, qu'est-ce qu'un artiste ? Voilà. Donc, on va parler du créateur.
Oui, à partir de quel moment tu peux dire que tu es un artiste ou dans quel milieu, etc. C'est vrai que c'est... bon, créateur, il y a le côté, il y a l'aspect, j'ai créé quelque chose, vraiment, et c'est cette création, du coup, qui...
Mais j'ai créé quelque chose, et si on doit retenir une seule chose de ce que j'explique aujourd'hui, c'est qu'il doit s'agir d'une création originale. Voilà, donc cette notion, je donne des exemples tout à l'heure. Donc c'est une création originale. Et alors, ce droit d'auteur, ça aussi c'est assez important à retenir, c'est simple, va se diviser en deux branches. C'est qu'il y a le droit moral et le droit patrimonial. Et ça, c'est une notion qu'on entend très souvent dans les procès, dans les affaires dites publiques. Et je dirais que c'est plus souvent le droit moral qui est évoqué que le droit patrimonial. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit moral ? Qu'est-ce que c'est que le droit patrimonial ? Donc, le droit moral, comme son nom l'indique, ça implique une notion immatérielle. Donc, c'est un droit surtout perpétuel que va avoir... Donc, le créateur, l'auteur. Et c'est un droit qui va se transmettre à ses ayants droit. Donc, on parle aussi dans des affaires, par exemple, on a pu entendre parler des héritiers de Picasso, par exemple, etc., qui, eux, non seulement ont hérité de ce droit moral, mais aussi, parce que dans certains cas, ça se double du droit patrimonial. Donc, le droit moral, ça va permettre, pendant très longtemps, alors que l'auteur est mort, de protéger, de contrôler l'esprit de l'œuvre dans des conditions juridiques et de jurisprudence qui sont très diverses, très variées. Et très, très nombreuses, bien sûr.
Et très complexes,
et très complexes, et qui donnent l'occasion de s'exprimer sur beaucoup de notions de morale, de culture aussi, parce que c'est très culturel, puisqu'évidemment, là, c'est pour ça que le droit d'auteur, le droit de ce qu'on appelle la propriété littéraire artistique, est un droit complexe, parce qu'il s'exerce différemment selon les pays où la question va se poser, puisque les droits ne sont pas les mêmes, alors qu'une œuvre peut voyager dans différents pays. Voilà, donc c'est ce qui va être très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit patrimonial lui? En fait, ça, c'est un droit beaucoup plus concret, parce que c'est un droit temporaire. Vous avez peut-être entendu de ce qu'on indique quand on dit que l'œuvre est tombée dans le domaine public.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, selon le type d'œuvre, ça va être limité dans le temps.
Ok.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
au-delà de cette limite,
eh bien évidemment que l'œuvre existe toujours.
Non, bien sûr.
Mais le rendement financier, c'est-à-dire les droits qui vont pouvoir être retirés, que ce soit avec des licences, des contrats, des exploitations, la représentation, bien va tomber, puisque ça tombe dans le domaine public.
D'accord.
Mais ça ne fera pas disparaître pour autant le droit moral.
Okay.
Voilà, donc il faut bien avoir ça en tête.
Ça m'amène une question. Quand on dit que l'œuvre tombe dans le domaine public, déjà ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle appartient à quoi? À l'État?
Elle appartient à tout le monde.
Elle appartient à tout le monde.
Voilà.
Ok. Voilà, Et ce qui peut être, du coup, tu parlais de tout ce qui pouvait être rétribué ou reversé en termes de droits qu'on peut collecter quand on exploite cette œuvre-là. Si elle tombe dans le domaine public, il n'y a plus cette notion-là, du coup?
Alors, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple parce que il y a ce qu'on appelle les droits dérivés, donc qui vont, eux, avoir un autre régime, qui vont pouvoir, puisque les ayants droit vont hériter du droit patrimonial et aussi du droit moral.
Ouais.
Mais ça dépend du nombre d'années durant lesquelles l'artiste va vivre.
Okay.
Puisque, par exemple, si on prend Picasso, Picasso c'est un bon exemple parce que c'est un artiste qui a été célèbre immédiatement, qui a énormément produit, qui a eu beaucoup d'héritiers.
Oui.
Voilà, donc on va avoir plusieurs conditions. Et donc ça veut dire que jusqu'à la fin de ses jours, puisqu'il est mort dans les années 70 et quelques, donc ça veut dire que son œuvre a vécu, qu'à partir du moment où il est mort, il a déclenché le fameux délai.
Oui.
Qui va faire qu'un jour ça va tomber dans le domaine public. Mais comme il avait des héritiers, ses héritiers à sa mort ont hérité du droit moral et des droits patrimoniaux. Et on refait pendant courir certains temps, délais. Donc c'est pour ça que c'est très complexe.
Hein. Ok, d'accord.
Voilà, parce qu'après, pour l'exploitation, on parle de la représentation et de la reproduction, bien, il y a des régimes différents. Voilà. Donc on déclenche différents droits selon la période historique dans laquelle ça va se dérouler.
Okay.
Et pour vous donner un exemple clair, qui est facile à comprendre, en musique par exemple, eh bien, en musique, si on prend l'œuvre de Mozart par exemple, Mozart est mort il y a longtemps, il est né il y a longtemps, et mort il y a longtemps. Et donc ce grand artiste peut évidemment laisser beaucoup d'œuvres. On pourrait dire qu'elles pourraient être exploitées, donc sans qu'on ait à verser de droits.
Okay.
Mais il y a une différence entre utiliser les œuvres de Mozart, donc les partitions de Mozart, et après les jouer. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas utiliser la représentation d'un orchestre ou l'enregistrement par un artiste.
D'accord.
L'enregistrement, voilà, donc j'y arrivais. L'enregistrement par un artiste de toutes les sonates, parce que c'est encore une création personnelle, puisqu'un artiste, un musicien est allé interpréter, a fait des enregistrements. Donc ça, c'est protégé de nouveau.
D'accord.
Même si l'œuvre originale qui est la musique mise sur une partition, et encore qu'il y a même des protections des partitions aussi. Parce qu'il y a des œuvres dont on ne possédait pas des partitions, donc il a fallu créer les partitions.
D'accord.
Donc les partitions de musique sont aussi protégées.
Okay.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est très complexe pour pouvoir comprendre donc, ce droit patrimonial. Donc on a bien fait la différence d'abord une œuvre originale d'un créateur.
Oui.
Le droit moral et le droit patrimonial.
Ouais.
Donc la question qui vient derrière, c'est comment protéger évidemment ce droit d'auteur.
Ouais.
Voilà.
Comment protéger à la fois le créateur et comment protéger sa création.
Tout à fait. Alors, quand on protège la création, on protège le créateur. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit d'auteur existe en soi, de par la loi. Donc, il n'a pas besoin. Normalement, il ne devrait pas avoir besoin d'être protégé, puisqu'il existe.
De par le fait, en fait.
De par le fait et d'accord. De par la loi.
Okay.
Mais il est vivement conseillé, et c'est le cas, de protéger, de prendre toutes les mesures, on va dire presque préventives, pour protéger. Et d'accord. Donc, il y a différents types de mesures qui vont être possibles, selon la nature de l'œuvre, puisque vous avez par exemple les œuvres artistiques, mais vous avez aussi les œuvres industrielles. C'est là qu'on va mettre en place des brevets. Donc ça, c'est une autre partie du droit de la propriété okay. littéraire artistique.
Okay.
C'est la propriété industrielle. Voilà. Donc là, on est dans la propriété artistique. Voilà.
Oui.
Donc là, on va pouvoir, par exemple, déposer une œuvre auprès d'un notaire ou d'autres organismes. On peut créer des contrats,
oui.
Notamment quand on invoquera peut-être le droit de reproduction, de représentation. Donc vous allez avoir des contrats de licence, des contrats de licence de marque,
ouais.
Qui vont permettre de toucher des droits, des royalties, etc. Donc on peut créer des cadres juridiques.
Mm-hmm.
On peut, alors ça, ce sont les nouvelles technologies par rapport aux œuvres modernes, enfin donc de vidéo, du numérique,
etc. Ouais.
Donc on peut, par exemple, il faut savoir que maintenant, on a développé des logiciels pour lutter contre les dérives de l'intelligence artificielle, mais je l'évoquerai après,
oui.
pour faire des marquages d'images. C'est-à-dire qu'on peut marquer les images pour savoir si elles ne sont pas utilisées.
D'accord.
Voilà, donc en fait, est en train de se développer à côté de tous les processus dits classiques de protection du droit d'auteur, des nouveaux processus qui s'adaptent aux nouvelles technologies
okay.
dans le cadre de la création artistique numérique.
Et on est un petit peu obligé parce qu'en fait, tout ça avance très vite. Et si ce n'est pas encadré par du droit et par des lois, c'est un peu la porte ouverte à toutes sortes de dérives, du coup.
Voilà.
Pour rester du coup dans le droit d'auteur, tu évoquais droit de reproduction, droit de représentation. C'est des choses auxquelles, c'est des termes, des notions auxquelles sont confrontés souvent les artistes, les créateurs. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ?
Oui, alors rapidement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on est un auteur, donc on est propriétaire d'une œuvre,
ouais.
donc on possède un droit sur cette œuvre, ce qui s'appelle un droit réel, mm-hmm. donc on possède la chose et on peut aliéner cette chose. Donc en fait, on peut la vendre. On peut la vendre, c'est okay. ce que font les artistes quand
tout
ils vendent leurs œuvres.
C'est ça.
La forme de la cession, de la vente, est différente selon les cas, puisqu'on peut, par exemple, louer une œuvre. On peut louer une œuvre,
oui.
voilà. On peut vendre une œuvre définitivement, ouais. on peut la louer. Mais on peut également céder partiellement ou totalement ce droit, et notamment eh bien, dans le droit de reproduction ou de représentation. Donc le droit de reproduction, on le connaît, c'est par exemple avoir le droit de mettre Mickey sur des tasses, etc.
Ouais.
Par exemple, tous ces droits qu'ont Walt Disney.
Est-ce que par exemple, pour une œuvre dont on se servirait pour faire un flyer pour une expo, est-ce que c'est un droit de reproduction ?
Alors, oui, tout à fait. Hein. Si vous utilisez, par exemple, si vous utilisez le tableau d'un artiste ou le logo d'un artiste,
ouais.
c'est nécessaire d'obtenir son autorisation.
D'accord,
c'est
okay.
absolument. Sauf si c'est tombé dans le domaine public.
Évidemment.
Voilà.
Hein. Là, ça appartient plus à personne, donc on peut y aller.
Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Mais c'est exactement la même chose quand. Ben, ça, c'est aussi une législation qui est à part, dans laquelle je vais rentrer, c'est donc toute la législation qui protège la musique.
Okay.
Donc vous savez, nous sommes dans une radio,
oui.
qu'on reverse des droits pour l'écoute, la diffusion des œuvres musicales.
Oui.
Voilà, donc ça c'est une autre forme de protection. Mais si, par exemple, un créateur de musique voulait permettre l'utilisation de sa musique, ou même on peut faire des séquençages, hein, puisque
ouais.
vous avez des utilisations partielles, eh bien à ce moment-là, il faudrait conclure un contrat
ouais.
d'autorisation
dans lequel il cède.
Voilà, donc pour faire de la reproduction, de l'utilisation, de la reproduction. Et là, les contrats sont très très nombreux. Hein. Vous avez
et tu disais que ça peut être cédé tout ou partie.
Tout à fait, complètement.
Donc on peut, par exemple,
en musique,
c'est ça. Par exemple, on peut sur un morceau, sur une chanson, on peut en convenir en fait de ne céder qu'une. Enfin, que 1 minute 30, par exemple, d'un morceau ?
Oui, l'artiste a le droit de
faire ce qu'il veut.
De faire ce qu'il veut, hein. C'est son
œuvre.
Alors, okay. justement, ça, c'est intéressant, d'ailleurs, cette question. Merci. C'est intéressant.
Merci, merci. Voilà.
Parce qu'on rejoint un peu le droit moral que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'artiste va décider que son œuvre pourrait être utilisée partiellement pour un usage publicitaire, par exemple.
Ah oui, bah oui, par exemple.
Voilà, ouais, par exemple. Mais c'est vraiment avec son autorisation. Or, dans certains cas, si l'usage ne correspond pas à l'autorisation que l'artiste va donner, mm-hmm. on peut dire que c'est son droit moral qui va être mis en avant, okay. en disant « mais moi, je contrôle l'usage de mon œuvre, donc je ne suis pas d'accord ». Et je passe à des exemples, je les insère dans la discussion parce que je dois faire des parties. Alors, par exemple, il y a eu un dossier assez célèbre, bon, pour les gens qui s'intéressent bien sûr au domaine d'activité, à propos de l'œuvre du dialogue des Carmélites, okay. hein, qui est un opéra assez connu pour les amateurs.
Pour les amateurs.
Voilà. Et donc, la famille, donc les ayants droit, c'était pas tombé dans le domaine public.
D'accord.
Les ayants droit, mais bon, ils avaient le droit moral de toute façon, se sont saisis la justice parce que il a été monté en Allemagne un opéra.
Ouais.
Qui ne respectait pas du tout le livret initial, puisque dans cette histoire où un ensemble de carmélites donc, sont menées à l'échafaud, parce que ça se passe pendant la Révolution française,
okay.
et donc elles meurent toutes à la fin. Et là, le réalisateur avait choisi de les laisser vivantes. Donc, donc en fait,
ce qui respectait pas
la sœur principale revient pour sauver toutes les autres.
D'accord.
Donc voilà, les héritiers, on dit non, ça c'est pas possible.
C'était une adaptation un peu trop positive.
Bien que la fin était plus joyeuse, ils se sont opposés. Donc, et ça, c'est assez récent, donc on a parlé de cette histoire. Donc là, on était vraiment on est parti, je reviens en arrière sur le droit de reproduction.
Oui.
Donc, le droit de reproduction, le droit moral, le contrôle, on reste toujours dans quelque chose qui peut être très encadré.
Mm-hmm.
Et donc, ces contrats existent, il n'y a pas de problème. Il suffit simplement que les professionnels du droit les mettent en œuvre. Et effectivement, des avocats spécialisés dans la rédaction des contrats encadrent les artistes pour protéger cet exercice de leur droit. Donc, c'est le droit de reproduction. Après, vous avez le droit de représentation. Donc, le droit de représentation, c'est autre chose. On va dire que c'est plus personnel, puisque c'est une personne morale ou une personne physique mm-hmm. qui va représenter une œuvre. Donc là, je pense plus à de l'interprétation personnelle.
Okay.
Ou donc, on va aller utiliser, par exemple, une chanson qui existe encore et on va la réinterpréter dans une comédie musicale. Enfin, voilà. Donc, c'est de la représentation.
Et est-ce que
c'est
dans...
C'est pas toujours que la chanson, bien sûr.
Ouais, mais j'essaie de le rattacher, par exemple, bah, voilà, à la peinture ou en tout cas, ou à la sculpture, etc. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, quelqu'un qui peint une œuvre qui est existante. Je prends l'exemple de Franck Noto par exemple.
Oui,
il revient dans chaque épisode. Est-ce que si par exemple, oui. il a une toile et moi je me dis je vais essayer de la refaire ou un artiste en tout cas veut s'approprier la toile et essayer de la refaire. Peut-être pas l'identique, enfin je sais pas trop, mais est-ce que ça rentre dans le domaine, enfin est-ce que ça c'est la représentation?
Non, c'est pas vraiment la représentation.
C'est pas vraiment ça, d'accord.
Non, parce que la représentation, c'est dans le cadre d'un contrat, donc c'est plutôt du plagiat ou de la contrefaçon.
D'accord.
Voilà, et ce qui n'a rien à voir, bien sûr, puisque c'est pas encadré juridiquement. Ouais. Mais c'est aussi une bonne question. que des bonnes questions.
Toujours.
C'est une bonne question parce que évidemment que les artistes peuvent être imités. Mais dans l'histoire de l'art, l'histoire de l'art n'est qu'une succession d'artistes qui se sont inspirés les uns les autres.
Tout à fait, de courants, etc.
Des courants, donc en fait, qui ont créé l'histoire de l'art, parce que c'est ça les courants. Mais il y a une grosse différence entre s'inspirer, faire partie d'un courant, notamment un courant intellectuel, et on a eu tous ces courants qui ont fait l'histoire de l'art et qui existent encore avec l'art contemporain.
Tout à fait.
Et entre plagier ou s'inspirer de façon d'une contrefaçon.
Mais c'est curieux parce que du coup, en musique, tu peux, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que par exemple, une chanteuse peut reprendre une chanson d'un autre chanteur qui est peut-être décédé et la rechanter, je sais pas, dans le cadre d'une émission, un truc comme ça. Donc ça va être, comme on dit en anglais, une cover. Ils vont la refaire à leur sauce, mais ce sera pas du plagiat pour autant.
Non, mais alors là, on applique la règle, c'est-à-dire que si c'est un créateur musical, un chanteur qui a écrit cette chanson, il faut lui demander son autorisation. On peut pas du tout aller chanter.
Ouais, chanter ça comme ça.
Ah non,
d'accord,
ça c'est
voilà.
Mais alors pour donner un exemple, si je suis dans le timing,
oui.
voilà.
5 minutes, mais donc voilà. On fera le droit à l'image pour un prochain épisode.
Voilà. Donc sur les contrefaçons, parce que ça c'est quand même très intéressant.
Ah oui,
carrément. Revenir sur les contrefaçons pour donner un exemple que les gens comprennent. Donc Par exemple, il y a eu récemment un procès. Enfin, la confrontation, c'est aussi c'est parasiter, s'inspirer, mais de façon tellement proche
oui.
que on peut pas le contredire, sauf à ce que les juges tranchent, parce que parfois la limite, voilà. Mais par exemple, il faut savoir que Serge Gainsbourg, qui ouais. est un artiste génial, a repris purement et simplement des morceaux de Chopin
ouais.
Pour en faire son fond musical dans Lemon Incest ou dans d'autres chansons, je ne les ai plus en tête.
Ouais, ouais.
Sauf que l'œuvre de Chopin, elle est tombée dans le domaine public.
Ah oui.
Voilà, donc en fait, donc ça c'est facile à comprendre.
Ah oui.
Voilà. En revanche, il y a très souvent des procès retentissants sur du plagiat dans les livres, dans les romans. Il y a beaucoup de choses.
Oui.
Et je me souviens par exemple d'un procès qu'il y a eu sur le roman, je ne sais pas, peut-être vous êtes trop jeune, La bicyclette bleue.
Ah bah non, oui.
Voilà. Enfin, bicyclette bleue, c'est quand même la famille, les ayants droit de l'écrivain qui a écrit Autant en emporte le vent.
Ah
j'ai
ouais.
un trou de mémoire, je ne sais plus qui c'est.
Je ne sais plus, mais c'est pas
voilà.
grave.
Et ben donc, les ayants droit ont fait un procès à la créatrice de la bicyclette bleue, j'ai un trou de mémoire également, parce qu'ils disaient que l'histoire elle était complètement inspirée d'Autant en emporte le vent.
Ah d'accord.
Donc ça peut aller
loin quand
très,
même.
Très très loin.
Et puis ça peut remonter
voilà.
à
alors, bien, et après, pour répondre à la question sur Franck Noto, si effectivement il y a des artistes qui sont inspirés par son style,
oui.
Eh bien, ils peuvent partir dans le même style, c'est des courants. Mais si effectivement ils reproduisent
oui,
son
œuvre à l'identique,
à l'identique en changeant ouais, ouais. de petits trucs, ils pourraient effectivement porter plainte en disant bon voilà cette œuvre elle est visiblement complètement reproduite par rapport à la mienne. Voilà, mais là c'est assez difficile parce que effectivement en matière artistique il y a une subjectivité qui rend ce type de protection la différence qu'on fait entre l'inspiration et l'imitation.
Et oui.
Et ça on pourrait en parler des heures parce que c'est quand même un autre aspect.
Oui, mais ça, je pense que ça nous intéresse, et surtout dans notre domaine à nous, dans l'art, ouais. et en tout cas dans la peinture, enfin dans les toiles, dans les fresques, etc. C'est quelque chose. Enfin, on reviendra sur ce sujet quand tu reviendras nous voir. il nous reste 2 minutes. 2 minutes.
Je peux parler peut-être du droit à l'image parce que.
Alors, mais
non,
deux minutes.
Voilà.
Je me dis peut-être qu'on peut l'aborder.
Alors, on l'abordera
et on
voilà.
reviendra.
Et voilà, parce que j'aurais voulu vous parler, mais bon, on n'a pas le temps. C'était de l'influence de l'intelligence artificielle.
Oui.
Alors, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner le cadre juridique de l'art.
Oui.
Parce que justement, cela pose plein de problèmes sur les données. Donc, usage des données, donc des données qui ont été créé par des personnes.
Tout à fait.
Donc, usage des données, reproduction. Mm-hmm. Également, de savoir qui est propriétaire de l'œuvre. Est-ce que c'est celui qui va envoyer des ordres à l'intelligence artificielle?
Ouais.
Est-ce que c'est celui qui va réaliser? Parce qu'il y a pas mal d'œuvres aussi qui sont réalisées avec l'aide d'un artisan.
Ouais.
Là, petite question piège. Est-ce qu'un artisan est un artiste protégeable? Oui, un artisan peut être considéré comme un créateur. C'est pour ça que le terme artiste, il n'est pas bon.
Non, c'est
parce
créateur,
que c'est
c'était
créateur,
très bien, parce
voilà,
qu'effectivement, il y a le côté où on a créé quelque chose,
voilà.
qu'après un artisan le définisse comme un artiste ou pas. Bon, bah, j'ai l'impression voilà. que c'est un peu chacun.
Il y a, il y a eu un procès aussi retentissant là-dessus. Donc l'intelligence artificielle, je pense que ça pourrait faire l'objet de toute une discussion
complètement.
Sur l'art, parce qu'elle est en train de révolutionner, comme dans les autres domaines, toutes les questions juridiques, culturelles, social qu'on peut se poser, mais c'est très très intéressant et franchement moi c'est un sujet sur lequel je m'intéresse beaucoup et donc je serais ravie de venir vous en parler.
Tu reviendras pour nous parler. On arrive à la fin de cette émission du coup, voilà, on aura abordé que le droit d'auteur, mais en même temps c'est des sujets qui sont très vastes et qui méritent du temps pour en parler. Donc dans un prochain épisode tu viendras nous parler de droit à l'image. De droit à l'image. On abordera effectivement l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, c'est là, qu'on le veuille ou pas, ou qu'on soit d'accord ou pas avec ce dispositif, on vit avec. Et en fait, on vit avec depuis longtemps
sans le savoir.
Finalement, sans le savoir.
Il faudra une émission spéciale sur l'intelligence artificielle.
Ok, ça marche. Moi, je prends. Dans tous les cas, on a encore beaucoup de matière à aborder avec toi, Nathalie. Tu reviendras au micro Terrain Vague pour parler de tout ça. En attendant, merci beaucoup d'être venue et de nous avoir parlé de droit d'auteur. Merci Tom en régie et merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Avec plaisir.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
Et c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphie, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est de véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.